Je remercie le public et la presse. Il s'agit de notre conseil municipal de rentrée. Et donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes frais et dispo pour cette nouvelle année politique qui commence. Je voudrais, comme au dernier conseil municipal, aborder en point d'information un certain nombre de sujets qui me paraissent devoir figurer dans cette rubrique. Le premier, j'avais l'intention de l'aborder, et Mme Zimmermann m'a posé une question orale exactement sur le même sujet, à savoir la problématique de la métropolisation. Et en accord l'un et l'autre, je vais à la fois répondre à sa question orale, qui était une question sur le thème de ce que nous avons à faire entre Thionville et Metz et les autres espaces encore circonvoisins, d'une part, et dans quelle logique se place la ville de Metz par rapport aux problématiques qui sont soulevées, en gros, dans le rapport Balladur, sur tout ce qui concerne la métropolisation. Et donc, je vais commencer sur ce thème-là pour ne pas rapporter en fin de conseil un sujet qui me paraît important. Alors, comme je le disais, Mme Zimmermann, dans sa question, est favorable au renforcement d'une coopération entre l'ensemble des collectivités du Nord-Lorrain, en incluant les secteurs de Briey et de Longwy, sous réserve que cette coopération n'implique pas obligatoirement la création de nouvelles structures supplémentaires pour ne pas épaissir encore le millefeuille territorial. Considérant que certaines collectivités se seraient inquiétées du caractère directif de mes propositions, Seigneur, directif, elle souhaitait savoir si mes projets sont conçus sur la base du volontariat et si je préconise une coopération sur des projets concrets ou au contraire une structure institutionnelle rigide. Alors, je lui réponds et en même temps je vais vous donner mon avis sur ce sujet qui me paraît très important. Alors, s'agissant tout d'abord de l'initiative, eh bien oui, je peux vous dire que tous les invités qui étaient présents à la réunion du 8 septembre ont unanimement perçu cette réunion comme initiative ayant produit un événement majeur. 14 intercommunalités de l'espace Nord-Lorrain transdépartemental. Du sud Messin à la frontière luxembourgeoise, des portes de Belleval aux trois frontières de Briey, Mézières-les-Metz, soit au total 635 000 habitants. Nous avons pu discuter, échanger, chacun s'est exprimé librement, tous se sont félicités de cette initiative. Et pour paraphraser M. Guy Vattier, le maire de Briey, qui est, je le rappelle, la sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle voisine, nous aurons mis 139 ans à parcourir les 26 kilomètres qui séparent nos villes, 139 ans depuis que le traité de Francfort du 10 mai 1871 a séparé ce que l'histoire des hommes avait naturellement constitué. Qui donc a pris cette initiative? Eh bien, il s'agit d'initiatives conjointes des maires et des présidents des intercommunalités de Metz et Thionville. Initiative qui s'inscrit dans un contexte politique particulier, certainement unique depuis les lois Chevènement, une fenêtre dans l'espace et le temps de notre démocratie républicaine. Il nous est proposé rien de moins que de dire ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare, de décrire nos espaces de coopération plutôt que nos champs de bataille. Alors, de quoi avons-nous parlé et pourquoi à ce moment précis? Alors, s'agissant du contexte, trois mots sont à retenir pour qualifier le contexte de cette réunion, celui d'INSEE, celui de Balladur et celui de Sillon-Lorrain. Alors, l'INSEE, tout d'abord, qui nous propose fin 2008 d'engager une étude sur l'aire urbaine de Metz à partir des résultats du recensement 2006. Et je vous rappelle que vous avez voté ici, à l'unanimité, une étude sur les problématiques liées au contexte du recensement par l'INSEE. J'ai tiré les conséquences d'une réalité identifiée depuis 1999, les aires urbaines de Metz et Thionville sont contiguës. Et on a demandé donc à l'INSEE qu'elle nous dise ce qui s'y passe. Ne réduisons pas la réalité de l'espace vécu par nos habitants aux limites administratives et à nos coopérations. Deuxièmement, le rapport Balladur. Il date du début de l'année 2009 et il met en perspective une refonte globale et ambitieuse de l'architecture et de l'organisation des collectivités territoriales. Troisièmement, le Sillon-Lorrain. À lecture du rapport Balladur, le Sillon-Lorrain a décidé, il se trouve que j'en suis le président en ce moment, et donc c'est à mon initiative, a décidé d'explorer les voies d'un d'un droit à l'expérimentation pour une métropole multipolaire de Thionville à Épinal qui permette de revendiquer nos enjeux métropolitains au sein du vide du Grand Est. Je dis bien du vide du Grand Est. Aucune métropole, en effet, n'est identifiée dans le rapport Balladur entre Paris et Strasbourg, ni entre Lille et Lyon. C'est alors qu'est validé le principe d'une conférence métropolitaine du Sillon-Lorrain qui, vous le savez, a eu lieu le 17 septembre. J'ai considéré qu'il était important, avec les maires de Thionville et les présidents des communautés d'agglomération de Thionville et de Metz, qu'il était important de nous réunir préalablement au Sillon-Lorrain, entre nous, entre Thionville et Metz, là où il existe un espace, une conurbation réelle. C'est le sens de la réunion du 6 septembre. Alors, des réalités qui s'imposent à nous, les voilà. Les élus locaux ont reçu dans leur boîte aux lettres, en juillet 2009, avant le départ en vacances de la majorité d'entre nous, un avant-projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales. Vous l'avez peut-être tous reçu, en tout cas, elle est publique. Cet avant-projet, porté par le ministre de l'Intérieur, va bien au-delà des orientations du rapport Balladur. Je voudrais vous en rappeler les principales propositions en me limitant à ce qui concerne précisément le volet territorial. Les agglomérations et les métropoles se voient assigner un objectif global de simplification de la carte intercommunale. Suppression des enclaves, nous en avons à nos portes. Suppression des EPCI présentant des discontinuités territoriales, nous en avons à nos portes. Je pense en particulier à celle de Mézières. Superposition des unités urbaines INSE et des périmètres des intercommunalités. Voilà ce qui est dit dans ce projet de loi. Et ce point mérite qu'on s'y attarde, car si les unités urbaines de Metz et de Thionville sont contiguës, uniques et homogènes, elles sont découpées en 11 intercommunalités. Nous sommes loin de l'esprit de superposition de l'avant-projet de loi que le ministère de l'Intérieur nous indique. Voilà pourquoi j'ai demandé au service de la ville d'analyser la transposition de nos territoires et de l'avant-projet de loi, si celui-ci devait devenir une loi à l'issue du débat parlementaire auquel Mme Zimmermann et ainsi que le Dr Jacquat vous participerez cet automne et cet hiver. Alors, des conséquences de ce qui pourrait bien s'imposer à nous, parce qu'il faut lire et essayer de comprendre ce qui peut se passer. C'est la transposition des effets de ce texte sur l'espace Metz-Thionville qui a animé nos échanges lors de notre réunion du 8 septembre. Ce n'est pas le maire de Metz qui est directif, Mme Zimmermann, c'est aujourd'hui le gouvernement, et peut-être bien demain le législateur. Et là, je m'adresse à vous doublement et à votre voisin. Alors, un espace négocié, mais un cadre législatif strict, si on s'en tient à ce document. C'est dans ce contexte que la ville de Metz a proposé de constituer un espace de débat, de dialogue et d'échange. Je propose simplement à nos collègues élus, d'agir plutôt que de subir. Je propose de ne pas attendre l'échéance de décembre 2011, c'est demain, date à laquelle les préfets devront arrêter le schéma départemental de coopération intercommunale pour constater que la loi nous impose ceci et cela. Je propose donc d'ouvrir un débat dès aujourd'hui avec les territoires de cet espace commun. Je voudrais conclure sur ce point précis de la délimitation du périmètre. Nous avions, dans un premier temps, proposé de ne réunir que les territoires de l'unité urbaine de Metz et de Thionville. Une maison au moins tous les 200 mètres, critère intercommunal de l'avant-projet de loi. Monsieur Veiten a souhaité d'y ajouter les territoires de l'EPCI, des trois EPCI frontaliers, Cattenom, Val d'Alzette et trois frontières. Il a bien fait, le contexte transfrontalier est un contexte important. Nous sommes donc passés de 11 à 14 intercommunalités et, écoutez bien, 144 syndicats intercommunaux. 144 syndicats intercommunaux. On nous indique dans le projet de loi qu'il faut les faire disparaître. Or, vous n'ignorez pas, Madame Zimmermann, que l'un des objectifs de la loi serait de supprimer les syndicats intercommunaux qui devront trouver une expression intercommunale intégrée. Certes, le défi est immense et je me félicite de votre soutien dans cette initiative. Mais ne tournons pas autour des mots. Il n'y a pas dans le projet du gouvernement la place pour des couches de plus en plus nombreuses du millefeuille. On parle plutôt de substitution et de fusion. Vous semblez évoquer dans votre question écrite une possibilité alternative située entre la coopération par projet et une structure intercommunale rigide. Cette alternative n'existe pas dans le projet du gouvernement. La réalité est plus simple. Faisons plus simple. C'est ce que nous demande le projet de gouvernement. C'est-à-dire simplifions, regroupons. C'est bien ce qui est indiqué. Nos habitants vivent cette réalité et nous avions tous conscience le 8 septembre à Metz que nous ne regardions pas tant cette agglomération qu'elle nous regardait, elle, droit dans les yeux. Nous constituons entre Metz et Thionville 14 intercommunalités et 144 syndicats intercommunaux, se superposant en unité urbaine de 635 000 habitants. Et cette unité urbaine doit pouvoir correspondre une agglomération plus lisible pour ses habitants. Cette agglomération est destinée à constituer le pôle septentrional de la métropole du Sion-Lorrain. À nous d'agir pour en dessiner le contour. En résumé, nous posons la problématique. Ce sera nos responsables, élus, et à la population qui nous regarde, parce qu'en fait, c'est ça. La population, quand on lui explique qu'il y a 144 syndicats intercommunaux dans l'espace concerné, elle ouvre des grands yeux, avec des présidents, des bureaux, etc. On a véritablement un gros travail. Et nous rendrons public, finalement, nous diffuserons tous les débats tels qu'ils ont eu lieu à cette réunion, qui dans un premier temps était une réunion exploratoire. Et tout cela sera un élément important de nos réflexions de ces prochains mois dans le cadre de cette loi qui n'est pas encore faite et que vous aurez à établir en tant que parlementaire. Voilà. C'est le premier point que je voulais dire. Il est très important et je vous remercie de cette question. Je ne sais pas si on va débattre, docteur, parce que c'est de l'info, hein.
Oui. Chose, vous nous dites que les conseillers municipaux députés auront peut-être un certain travail. J'ai, en fonction de ce que vous venez de dire, monsieur le maire, quelques éclaircissements. C'est gentil, hein.
Non, mais je sais pas.
Oui. Simplement, donc j'ai lu dans la presse vos déclarations et la réunion donc qui a eu lieu concernant donc cette métropole Nord-Lorraine. J'ai assisté il y a pas très longtemps à la réunion que vous avez présidée donc sur le sillon lorrain. Et en fonction de ce que j'ai lu dans la presse et de la réunion que j'ai assistée, m'est revenu donc en mémoire, monsieur le maire, différentes déclarations que vous avez faites à la presse l'année dernière, en 2008, en mai, septembre et octobre 2008, si je ne me trompe pas, où vous disiez en particulier, dans un esprit très sillon-lorrain, et je vous trouvais, j'étais tout à fait d'accord avec vous, c'était que vous disiez que l'intérêt, c'était de travailler ensemble pour le bien commun. Vous parliez Lorraine-Nord, Lorraine-Sud. Et sur les divergences politiciennes, ça je me souviens encore, vous disiez, il n'y a pas de problème, si on n'avance pas, on recule. C'est une expression que j'emploie souvent, donc j'espère que vous ne l'aviez pas pompée sur moi. Mais à ce sujet, vous disiez, ça c'était l'expression à vous, vous le disiez très souvent, disant qu'on avait l'épée dans les reins. Et vous aviez répété quelque temps après, toujours à la presse, en disant que notre unité était notre force. Et puis ensuite, ça aussi la phrase, je l'avais appréciée de votre part, où vous disiez, c'était je crois en octobre 2008, qu'il fallait instaurer un climat gagnant-gagnant donc entre nos villes. Et moi je trouvais que c'était bien parce que en fonction de la vie politique, il est indéniable que si on voit que le nord de la Lorraine ou le sud de la Lorraine, ou qu'on voit Metz ou Nancy, ou qu'on voit Thionville, Metz, Nancy, Épinal, puis tous les villes satellites et autres, il est évident qu'on ne représente rien, qu'on ne représente rien. Quand je siège au Conseil de l'Europe, quand je vais au Conseil de l'Europe, on me demande où est Metz, je suis obligé de leur dire c'est entre Strasbourg et Luxembourg. Je commence à piger, à tout petit près, auprès de Luxembourg. Mais Nancy, individuellement, ils ne connaissent pas, je dis bien, ils ne connaissent pas, Metz, ils ne connaissent pas, donc non plus. Et j'ai l'impression que si on veut être fort, si on veut être connu, si on veut se développer, et surtout dans des périodes comme maintenant, il faut travailler, comme vous l'avez dit, réduire tout ce qui est au nord métropole, mais faire la même chose sur l'ensemble du sillon lorrain, hein, sur l'ensemble du sillon lorrain, avec les deux arêtes, hein, ce que vous aviez indiqué la dernière fois. Or, j'ai eu l'impression, c'est pour ça que j'ai pris la parole et je demande un éclaircissement, qu'en fonction de ce que vous indiquez encore maintenant sur le nord métropole, c'est que c'était, on allait réduire cette voilure que vous aviez donc instillée en 2008 pour la réduire uniquement au nord métropole. J'ai peur très sincèrement que ce soit insuffisant.
Je vais bien volontiers répondre à cette question-là parce qu'en fait, elle est très importante. Il y a des logiques complètement différentes entre la logique Sillon-Lorrain et la logique métropole de vie. Nous ne vivons pas au quotidien dans le sillon lorrain. Nous avons des enjeux communs et surtout des enjeux de projet. Par exemple, l'université. Voilà un enjeu de projet qui est caractéristique. Pour l'instant, il y a 4 universités et nous sommes en train de construire une université lorraine ensemble. Et nous avons d'ailleurs été salués par la prime au projet campus. Voilà un exemple typique. Nous en avons d'autres, par exemple. Il y a 2 semaines, je suis allé avec le maire de Nancy qui lui-même est président du CHU, moi président du CHR, présider une réunion de travail de tous les grands professeurs de médecine et les chefs de service du CHR avec ceux du CHU, qui ont eu chacun dans leur spécialité 10 minutes, un quart d'heure pour s'expliquer sur les projets qu'ils pouvaient élaborer en commun. Parce qu'effectivement, si nous voulons peser dans l'avenir en matière de santé et d'hôpitaux, nous devons nous organiser. Ça y est, nous commençons. Je vous assure que être président d'un CHR, c'est une fonction très importante et je m'y emploie de façon à ce que nous ayons des professeurs de médecine qui s'installent et de la recherche qui s'installe dans notre CHR et que nous puissions travailler à conforter l'espace lorrain dans son ensemble. Il y a d'autres exemples. Dans le domaine du tourisme, il est évident que l'impact du centre Pompidou jumelé à celui de la place Stanislas peut faire un tabac sur le plan de la proposition et de l'offre touristique. Nous avons comme ça 6 thèmes. Ces 6 thèmes, nous y travaillons. Je suis actuellement président du Sion Lorrain. Et nous avons ouvert la conférence métropolitaine avec des ateliers. Cette conférence métropolitaine a été l'occasion de présentation de tous les ateliers. Nous en avons 6 qui sont des ateliers thématiques et 2 ateliers transversaux. Et ce sont les thèmes qui constitueront le contenu de ce Sillon Lorrain qui est ce qu'on peut appeler un archipel de villes qui sont organisées ensemble. Alors que s'agissant de ce à quoi je réponds à la question de Mme Zimmermann, il s'agit d'une communauté de vie. Nous avons ici dans le secteur, par exemple, un hôpital commun, Mestonville. Nous avons des choses complètement en commun qui sont depuis longtemps. Nous avons des choses qui sont complètement en commun, c'est par exemple toutes les installations d'Amnéville. Vous prenez le Galaxy, c'est la grande salle de spectacle du secteur, ainsi que d'autres installations d'Amnéville. Il faut regarder en face ce que c'est. Mais le magasin IKEA, c'est la même chose. Nous avons des choses en commun, tout ça sur ce sillon extrêmement dense où la population est là. Et nous avons 11 intercommunalités entre Thionville et Metz. Je vous signale que notre intercommunalité à nous, elle va jusqu'à Coin-sur-Seille, Coin-les-Cuvries, Cuvries dans le rural, mais que dès qu'on a dépassé Voipy, c'est terminé. Et donc la Croix de Concours, Mézières, Agondange, etc., ça ne fait pas partie de Metz. Vous avez une demande énorme des gens qui sont en Meurthe-et-Moselle et qui jusqu'à présent ne pouvaient pas discuter avec nous parce qu'il y avait un préfet qui disait la Meurthe-et-Moselle, c'est pas la Moselle, défense de discuter. Quand vous êtes dans le Gernisy, quand vous êtes à Briey, vous êtes dans le bassin d'emploi et vous êtes dans la zone urbaine de Metz. Je vous signale que je suis invité, j'ai déjà reçu le maire de Briey ici, je suis invité à Briey, j'y serai le 13 octobre. Il y a une forte demande de contact avec nous. Tout ça, c'est pour dire que là, c'est une communauté de vie. Nous avons plus que 40% des gens qui habitent à Briey qui travaillent dans l'agglomération Messine. Voilà pour répondre clairement. Donc, on a 2 logiques qui sont différentes. Il y a une logique qui est une logique de métropole multipolaire, hein, et il y a une autre logique qui est une logique de vie en commun sur tous les sujets de la vie courante. Voilà la réponse que je peux donner. En tout cas, Madame Zimmermann, merci beaucoup. Nous avançons. Tant que je suis président du Sion Lorrain, on va avancer dans le domaine de nos rapports avec Nancy principalement, mais avec l'ensemble des 4 villes. Et puis, pour cette initiative que j'ai prise, je crois que tous les responsables politiques, y compris ceux qui sont ici, ont de nouvelles responsabilités. On nous tend évidemment une perche, mais quelque part, si la loi va prospère comme on peut le prévoir, nous aurons des contraintes et des obligations. Et nous avons souvent intérêt à prévoir plutôt qu'à subir. Voilà. Et donc, nous sommes rentrés en contact avec tout le monde. Oui, allez-y, monsieur Thiel.
Non, simplement pour vous dire, monsieur le maire, que je vois ces efforts et la réponse au docteur Jacquat que vous venez de faire est à moitié satisfaisante, si je puis me permettre, parce que je m'inscrivais exactement un petit peu dans le propos qu'il a tenu à l'instant. Ma crainte, mais comme on dit toujours, pour entreprendre, il faut espérer. Mais ma crainte, néanmoins, c'est que vous avez cité un mot qui était celui de Balladur, du président de cette commission, l'ancien Premier ministre, monsieur Balladur. Eh bien, monsieur Balladur, dans son rapport, quand il parle de métropole, ne parle pas de cela. Il entend un certain nombre de métropoles qui, par leur dimension aujourd'hui et par leur structure administrative d'aujourd'hui, pèse d'un certain point. Donc ma crainte est qu'on soit en train d'inventer un truc, le président Leroy dit on est en train de réinventer le département, et que finalement toute cette énergie ne serve à rien en ce qui concerne la métropolisation. Je n'exprime ici qu'une crainte, je ne dis pas qu'il ne faut pas se rapprocher, vous avez raison sur tout ce que vous dites sur la communauté de vie, etc., ça c'est parfait, mais ce n'est pas ça qui va faire une structure administrative, et ce n'est pas ça qui va faire une métropole au sens du rapport de M. Balladur. Voilà ma crainte. Voilà, donc je voulais le dire ce soir, alors, puisque vous avez généreusement engagé le débat.
C'est très intéressant, et M. Thill, je comprends que vous puissiez craindre cela. Moi, il se trouve que je suis en responsabilité dans l'action. C'est-à-dire que j'ai lu, comme vous, le rapport Balladur. Et le rapport Balladur, qui est un rapport qui a été envoyé au gouvernement, qui, au départ, proposait 8 métropoles en France. Après ça, il en a proposé 12. Et les discussions qui ont lieu en ce moment, notamment entre le gouvernement et l'association des maires des grandes villes de France, et moi, j'ai mené ces négociations durement, parce qu'effectivement, nous étions rayés de la carte, mais ça... C'est un problème qu'il faut s'adresser au gouvernement, monsieur Thill. Vous me suivez, hein, je vous en remercie d'avance. Eh bien, nous avons, nous, à nous battre pour exister aussi bien avec Nancy, parce qu'effectivement, nous avons proposé, et d'autres villes nous rejoignent, la notion de métropole multipolaire. Et deuxièmement, il devient évident que nous avons ici un handicap terrible du fait des divisions des Mosellans du sillon Mosellan, avec les vieilles haines recuites, les uns qui n'aiment pas les autres, avec Amnéville, avec tout ça, je ne vous pas donner des noms, parce que c'est l'horreur. Mais on a là un cadéidoscope de divisions, de petites structures qui sont autour de leurs petits gâteaux et qui protègent leurs petits intérêts, et aucun espèce d'esprit commun autour de ces agglomérations. Et moi, je suis dans l'action. Pourquoi ? Parce que le rapport Balladur, il va évoluer avec les parlementaires. Et si nous... Nous savons, entre-temps, nous organiser pour que, enfin, nous existions dans l'esprit des Parisiens, eh bien, nous aurons gagné la partie. Et croyez-moi, une chose est sûre, ça peut aller à l'échec, et nous continuerons à être blancs sur la carte. Et votre crainte aura été fructueuse. Mais je vais vous dire, moi, je me bats pour qu'on existe sur la carte. C'est une crainte fondée. Mais en tout cas, on y va. Et ceux qui diront, il est hors de question de s'organiser... Il est hors de question de regarder cette problématique. Ils auront la responsabilité du refus. Je vais vous dire, on a peut-être une petite chance de s'en sortir parce qu'on est un espace de 635 000 habitants entre Thionville et Metz. 635 000 habitants, c'est considérable. Seulement, il n'y a que nous qui le savons et encore pas depuis longtemps. C'est grâce à l'INSEE. Donc, on a intérêt à travailler ensemble. Et je peux vous dire une chose, c'est que tout ça, ce sera mis sur la table. On fera de la politique au sens noble du terme et on la fera tous ensemble. Et à la sortie, on verra bien si vos craintes étaient fondées, si on peut rien faire et si on reste comme on était, c'est-à-dire blanc sur la carte, ou bien si on a réussi à avancer. Je ne veux forcer personne, je ne veux pas ajouter une couche au millefeuille, je pose la problématique parce que c'est mon boulot. Voilà. Et croyez-moi, nous sommes tous concernés. Parce que ce n'est pas seulement des gens de gauche ou des gens de droite, c'est tout le monde. Et à un moment donné, il faut que chacun accepte de regarder. Mais vous savez, on va être poussé par les pouvoirs public. Le préfet, tout à l'heure, a fait une sortie qui a laissé un peu blanc un certain nombre de conseillers généraux en disant de toute façon, il était hors de question qu'on reste avec autant d'intercommunalités mal faites telles que ça fonctionne en ce moment. Voilà. Alors, encore un mot, Madame Zimmermann.
30 secondes, parce que c'est moi qui suis à l'origine.
C'est un grand sujet, c'est vous qui êtes à l'origine de la question.
C'est moi qui suis à l'origine du sujet. Alors, je trouve que c'est très sympathique de donner chacun son avis. Simplement, monsieur le maire, je crois, si vous voulez, que l'objet de ma question, c'est quoi ? C'est deux points. Un premier point, c'était un des thèmes centraux de ma campagne. C'est qu'effectivement, je crois aujourd'hui que si on veut exister, il faut, oui, se tourner vers le nord de la Lorraine. Parce que sinon, et vous l'avez souligné, le poids démographique est important, mais simplement, il n'existe pas à partir du moment où on ne le met pas en avant, on ne le visualise pas assez. Et deuxième autre point, je crois, si vous voulez, que pourquoi je suis très sensibilisée et peut-être d'autres moins, c'est que c'est une partie. Bon, et je peux peut-être parler.
Allez-y, madame.
C'est en fait que une grande partie se trouve dans ma circonscription. Et c'est vrai que, et le docteur Jacquat, surtout, qui a une autre partie beaucoup plus au sud. a peut-être une autre perception, mais moi ce que je ressens au sein de ma circonscription, c'est effectivement de se tourner vers la Lorraine du Nord, c'est clair. Et là, je crois, si vous voulez, que effectivement, dans ma question, j'insistais sur le fait que je ne souhaitais pas qu'il y ait un millefeuille supplémentaire, parce que alors que notre projet de loi va aller vers la disparition de certains millefeuilles et que vraiment je soutiendrai, peut-être revu et corrigé, parce que je crois que autant le rapport Balladur était très bon, autant le projet de loi demande à être travaillé aujourd'hui dans les deux assemblées, mais c'est vrai que le travail préparatoire qui est fait est sans doute nécessaire.
Merci. En tout cas, voilà la question de Mme Zimmermann qui correspondait à une information que je voulais donner. Étant traité, je voudrais vous dire quelques mots sur la façon dont nous allons aborder la grippe H1N1. Pour vous dire simplement que ici, à Metz, dans les services municipaux, il y a eu en juin 2009 une campagne d'information sur le personnel. En septembre 2009, on a également complété cette information et organisé une information approfondie partout, de façon à ce qu'on puisse faire face aux problèmes de gestion de la ville, y compris s'il y a des absents. Deuxièmement, on a mis en place un système de formation, lutte contre la transmission manuportée. Et donc, il y a 300 personnes qui ont été formées au lavage des mains, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont en route. Troisièmement, on a mis en place des moyens spécifiques. Il s'agit de masques. Il s'agit de matériel qui sont stockés. Certains sont déjà livrés, d'autres sont en commande. On a également acheté des masques chirurgicaux, des gants à usage unique, des gels hydroalcooliques, etc., etc. On a élaboré un plan communal d'action sous la responsabilité de Mme Palaise, avec un groupe de pilotage qui comprend Mme Hébert Souffrin, M. Tron, M. Darbois et les hauts fonctionnaires de la mairie, afin d'assurer la continuité du service public en cas d'épidémie. On a communiqué tout ça aux instances représentatives du personnel. Et enfin, nous sommes en relation permanente avec la préfecture qui nous a demandé de mettre à sa disposition un espace de 500 mètres carrés pendant 4 mois pour pouvoir organiser la vaccination, ce qui n'est quand même pas un point de détail. Et nous donnerons une réponse début de la semaine prochaine sur cet espace que nous réserverons à la demande de la préfecture à la vaccination. Alors, c'est ce que je... Alors, troisièmement, information. C'était la pandémie. Je voudrais vous dire également que j'ai rencontré les responsables de l'INSEE qui sont venus à nouveau le 20 août ici visiter les locaux pour essayer de s'implanter. Ils hésitent, ils ne sont pas très chauds pour les casernes, au sens propre du terme, alors qu'on leur avait proposé le deuxième génie. Et ils hésitent entre deux sites, la caserne d'Asfeld, la rue d'Asfeld, où est le service de l'intendance, hein, et puis l'espace constitué par l'ancienne gare SNCF qui est place du Roi Georges. Alors je voudrais dire en passant que j'étais avant-hier chez le directeur de cabinet du ministre de la Défense, M. Morin, il s'appelle M. Billy, et là j'ai fait valoir les difficultés qu'on avait d'ailleurs à proposer cette caserne de la rue d'Asfeld, parce que quand on l'a visitée, on nous a dit que, attendez, on va peut-être avoir des arrivées nouvelles. C'est-à-dire qu'on est dans une logique assez curieuse où on nous fait visiter un établissement en nous disant on va peut-être avoir des... Parce qu'effectivement, parmi les idées du ministère de la Défense pour compenser les départs des militaires, vous savez, ils ont tous été taxés d'un certain nombre de fonctionnaires. Outre les 250 personnes qu'on attend de la direction de l'information, de l'informatique en fait de l'armée, on pourrait aussi peut-être avoir 250 personnes liées justement à l'intendance. Ça s'appelle, comment on dit, mon colonel, on dit le commissariat, voilà, le commissariat des armées, puis c'est plus de l'armée de terre maintenant. Donc en fait, on est encore dans des... Voilà. Oui, sauf que ça ne m'a jamais été dit d'une façon officielle.
Oui, parce que ça dépend ceux qui arrivent et qui sont... Alors, effectivement, si on met 250 personnes de plus dans cet endroit-là, on ne peut pas y mettre les fonctionnaires de l'INSEE. Alors, tout ça pour vous dire que, par ailleurs, je complète mon information, l'indication du président de la République de faire venir deux régiments d'Allemagne ayant abouti à ce qu'il y en a un qui vienne en Moselle et l'autre qui devait venir en Moselle est parti à Strasbourg, hein, vous savez, c'est les unités allemandes. Au ministère de la Défense, on m'a indiqué qu'il n'y avait aucune unité disponible. C'est-à-dire que on ne voyait pas comment la promesse ou l'intention du président de la République, que j'ai toujours entretenue, de nous amener une unité à Metz, correspondant à la zone de... Vous savez, à ce qu'on sait qu'une unité de défense, eh bien, elle était bien compromise, si j'ai compris le directeur de cabinet du ministre de la Défense, qui n'a plus d'unité, qui n'envisage pas quoi que ce soit, et surtout pas d'ouvrir la boîte de Pandore, tellement... l'affaire a été compliquée. Je voulais quand même vous le dire parce que quelques-uns espéraient encore sur le régiment médical ou sur un régiment de marche du Tchad que les gens du Haut-Rhin n'auraient pas voulu. En réalité, on nous a expliqué clairement que les promesses du président de la République, parce qu'en fait c'était bien ça, sous réserve de l'accord de Mme Merkel, nous avait-il dit, hein, il y avait des parlementaires qui étaient là, eh bien il n'y aurait qu'une unité qui viendrait en Moselle et pas deux, comme on pouvait le croire. Voilà ce que je voulais vous dire comme information correspondant aux divers éléments d'actualité qui précèdent. Le docteur Jacquat, vous en prie, docteur.
Oui, pour les militaires, vous comme moi, nous étions ensemble, et je sais que vous entendez très bien monsieur le maire, le président de la République, avait dit deux, et moi je retiens toujours deux en Moselle.
Mais oui.
Si je comprends les subtilités politiques. Cependant, dans...
Il avait bien dit deux en Moselle, on est
mais
d'accord.
Mais ce que je voudrais... Oui, on a bien entendu tous les deux. Cependant, j'ai une remarque à faire. Je vous l'avais déjà faite et je voudrais la refaire ce jour concernant l'INSEE souhaitant donc aller éventuellement dans les locaux de la direction régionale de la SNCF rue Henri Marais à Metz. Moi, j'avoue que j'ai la trouille parce que depuis un certain nombre d'années, les effectifs de la direction régionale de la SNCF à Metz donc, diminuent. Il en reste encore un certain nombre. Et si... la SNCF, la direction régionale, donc, doit partir de ses locaux pour que l'INSEE vienne à sa place, eh bien, c'est évident que la direction régionale de la SNCF, elle risque de disparaître totalement de Metz pour aller ailleurs. Donc, moi, j'avoue, j'ai la trouille. Et où en est-on, le quid, concernant le premier projet qui était de les mettre dans un bâtiment neuf, c'est ce qu'ils voulaient, dans un premier temps, près du centre Pompidou. Je sais très bien que si on doit construire un nouveau bâtiment, ça mettra un certain temps et que ça risque de retarder donc leur venue. Mais là, c'est quand même important. Le problème de la direction régionale est très, très important. Et deuxièmement, le problème de l'intensification du quartier de l'Amphithéâtre.
Bien sûr, je réponds à ces deux questions qui sont très, très importantes et pertinentes. La première, c'est sur la direction régionale SNCF. Il y a actuellement 270-280 personnes à la direction régionale de la SNCF. Je me suis entretenu longuement avec tous les responsables de la SNCF, y compris M. Autruf et M. Pépi, sur le sujet. On ne peut pas aller plus haut. Ces messieurs m'ont indiqué clairement qu'il n'était absolument pas question de faire partir. Je vous donne leur réponse. Et donc, il y a deux parties dans ces effectifs. Il y a une partie qui est à peu près de 120-130 personnes qui doit rester près de la gare pour pouvoir aller régulièrement, c'est les gens qui sont dans l'administration, qui doivent pouvoir aller facilement à Paris en prenant le TGV, et une autre partie qui peuvent aller dans des locaux neufs ou dans des locaux aménagés et qui peuvent s'éloigner de la gare parce que ce sont des techniciens qui font des plans et des projets. J'ajoute que la SNCF a répondu à la question que j'ai posée, la même que celle du docteur Jacquat. M'a répondu que la SNCF n'avait aucune intention de garder des bâtiments pour rien. Il souhaitait louer des bâtiments plutôt que de les posséder. Je parle sous le contrôle de M. Antoine qui connaît bien la maison. Et c'est M. Autruf qui m'a dit ça et qui préférait avoir des locomotives que d'avoir des bâtiments. Et ils avaient une politique systématique de vente de leur immobilier pour louer et se reconcentrer sur un métier qui est d'acheter du matériel de traction, etc. S'agissant maintenant de l'installation de l'INSEE dans des bâtiments neufs, eh bien, il n'y a aucune volonté de ce côté-là, s'agissant de Bercy. Bercy dit non, premièrement. Et deuxièmement, les pouvoirs publics sont pas très chauds à ce qu'on fasse du neuf alors qu'on explique qu'on va libérer énormément de locaux à Metz. Et donc, il y a quelque chose d'assez logique. Et donc, la réponse est claire. On essaye de mettre l'INSEE, état actuel des choses. Moi, j'accompagne le mouvement parce que je vous rappelle que c'est quand même l'État, des responsables du ministère des Finances qui régulièrement viennent ici maintenant. Et dans l'état actuel des choses, je vous ai dit exactement où on en était. Voilà. Alors, il y avait encore un point divers. C'était le bilan de la rentrée. J'aurais demandé à madame Danielle Bory de faire le bilan de la rentrée scolaire.
Merci.
Avec des chiffres.
Oui, merci monsieur le maire. Alors donc la rentrée scolaire, c'est les écoles, mais c'est aussi le périscolaire et la restauration scolaire. Donc c'est sur ces trois points que je vais vous donner quelques chiffres. Alors s'agissant d'abord de l'école, de la rentrée des classes, les effectifs à la rentrée sont de 9648 enfants. Donc 3887 en maternelle et 5761 en élémentaire. Ils étaient de 9475 l'an passé pour la rentrée dernière, donc en 2008-2009. Donc on voit qu'il y a une augmentation des effectifs. Alors bon, 273 élèves, ça paraît peu, mais c'est quand même, ça représente 2%. Alors ça est essentiellement en maternelle. Donc c'est là qu'on voit l'augmentation. Mais ce qu'il faut noter, c'est que durant des années, nous avions une chute importante des effectifs. Aujourd'hui, à ce jour, nous avons réussi à stabiliser les effectifs et même à amorcer une remontée. Donc on est plutôt content de cette rentrée et on espère qu'on pourra dire la même chose l'an prochain. Voilà. S'agissant donc du périscolaire et donc des nouvelles mesures que nous avons mises en place à la rentrée 2009, donc vous savez, la nouveauté, c'est l'accueil dès 7h30 du matin, donc qui est organisé dans toutes les écoles maternelles et toutes sont couvertes, avec encadrées par les ATSEM. L'an passé, il y avait de l'accueil périscolaire à 7h le matin, mais organisé par les associations, et cet accueil ne se faisait pas dans toutes les écoles. Alors l'an passé, il y avait dans cet accueil périscolaire 274 inscrits. Aujourd'hui, nous en avons 682, soit 408 inscriptions supplémentaires et 150% d'augmentation de l'inscription. Donc on voit bien que les parents, que ce service est utile aux parents et que les parents n'ont pas hésité à inscrire leurs enfants. Nous avons aussi des retours de ces familles qui sont très satisfaites de ce dispositif. Donc la fréquentation, quant à elle, ça c'est les inscriptions, a augmenté de 16%. Voilà. Pour le périscolaire du soir, il reste organisé toujours de la même façon. La particularité, c'est que cette année, toutes les écoles sont couvertes par le périscolaire du soir, ce qui n'était pas tout à fait le cas l'année dernière. C'est toujours sous la responsabilité des associations. Alors, je n'ai pas beaucoup de chiffres à vous donner parce que les associations ne nous ont pas encore fait remonter toutes leurs statistiques, tous leurs chiffres. Mais ce qu'on sait déjà, d'ores et déjà, par rapport aux petites informations qu'elles nous ont fournies, c'est que là aussi, il y a une augmentation de la fréquentation du périscolaire le soir. Alors, concernant maintenant la restauration scolaire. Alors, je vous donne des chiffres. En septembre 2008, il y avait 3098 enfants inscrits à la restauration. Aujourd'hui, ils sont 3302. Donc, on voit une augmentation de 6%. Et quant à la fréquentation, parce que les inscriptions et la fréquentation, bon, il y a des écarts. En septembre 2008, il y avait 2496 repas consommés par jour, les jours de pointe. Et aujourd'hui, il y en a 2618, dont une augmentation de 4,5%. Alors, on est quand même qu'à 3 semaines de la rentrée, donc les chiffres, sur la fréquentation, ça va forcément augmenter. Alors, on remarque quand même des hausses importantes de fréquentation dans les restaurants Gaston Hoffmann avec plus 12%, le restaurant Sainte-Thérèse plus 15%, le Sablon plus 5%. Ailleurs, la fréquentation reste stable. partout elle reste stable. Alors, par contre, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi la répartition par tranche, puisque maintenant nous avons des tranches de quotient familial. Alors, on constate effectivement que les effets de notre nouvelle politique tarifaire a pour l'instant favorisé les familles ayant un revenu au SMIC. Donc, vous savez, il y a, voilà. Puisqu'elle était cette tranche, oui, les familles qui sont des revenus au SMIC, hein, étaient constituées de cette tranche. L'année dernière était constituée de 33% d'enfants qui fréquentaient la restauration scolaire. Aujourd'hui, elle est à 36%. Et je vous répète, nous ne sommes qu'à 3 semaines de la rentrée scolaire. Quant à Borny, on a remarqué que la première tranche, alors celle qui correspond aux familles les plus modestes, hein, aux revenus les plus modestes, elle est passée de 22 à 26%. Donc là, on a constaté qu'il y avait quand même un effet par rapport au quotient. Alors, ceci étant, on est tous d'accord pour dire qu'il y a encore à faire, hein, par rapport à cette politique tarifaire, d'autant que on verra cette année, on en fera un bilan et on verra comment encore l'améliorer. Nous continuons aussi à travailler sur la qualité de la pause méridienne en termes d'encadrement et d'amélioration et d'animation. Alors aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas l'an passé, toutes les écoles sont ouvertes pour accueillir les enfants avant et après le repas. Et nous avons mis à disposition des animateurs, des malles pédagogiques pour justement animer ces temps. Mais en plus, nous travaillons également à améliorer la qualité des repas. Nous allons très prochainement introduire des produits issus de l'agriculture locale. Nous avons donc en octobre on introduira des produits laitiers et fruitiers. En janvier, nous introduirons des huiles, les huiles de colza, pas les huiles, voilà. Et puis pour la troisième étape, voilà. Et puis pour la troisième étape, on est en train de travailler avec les agriculteurs locaux la possibilité de nous approvisionner en légumes. Alors ça prend un peu plus de temps parce que bon, il faut voilà. Alors je tiens à dire que ce travail que nous faisons avec les agriculteurs locaux, c'est un travail que nous faisons en transversalité avec mon collègue René Darbois chargé du développement durable et avec mon collègue ici tout près de moi chargé du développement économique, parce que si nous faisons ce choix, c'est bien un choix de santé publique, un choix de développement durable, un choix de justice sociale, un choix de développement économique et tout simplement un choix de société. Voilà. Et par ailleurs, là, c'est pour la petite information, les portes ouvertes qui ont été organisées donc le 5 septembre dès la rentrée scolaire. On rencontrait un franc succès. Les parents étaient très contents de cette initiative. Ils sont venus assez nombreux visiter les restaurants, rencontrer les agents d'encadrement et les personnels qui ont en charge leurs enfants pendant la pause méridienne. Et puis, ils ont été nombreux aussi à venir visiter la cuisine centrale. Et ben, c'est la preuve bien que les parents sont très sensibles à la qualité de vie de leurs enfants. Je vous remercie.
Les effectifs reprennent. La première nouvelle depuis au moins 10 ans.